RCF. Sans le savoir, nous sommes entourés d'un garde-manger inestimable. Rien qu'en Europe, il y aurait 1600 plantes comestibles et nous n'en consommons qu'une cinquantaine. François Coupland, vous êtes ethnobotaniste. Depuis plus de 50 ans, vous étudiez les plantes comestibles ici en Europe, mais aussi sur les 5 continents. Alors non seulement vous avez une connaissance encyclopédique des plantes, vous avez publié plus d'une centaine d'ouvrages, vous êtes docteur en sciences du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, mais vous avez aussi une expérience de terrain, car vous avez vécu des années dans les forêts nord-américaines, en autarcie, vous nourrissant de plantes. Aujourd'hui, cette vaste connaissance des plantes comestibles, vous la partagez au travers de livres, mais aussi de stages et de formations. Alors, vous m'avez donné rendez-vous ici à Brinda, près de Lyon, au pied des monts du Lyonnais. On n'est pas en pleine forêt, on est plus dans ce qu'on appelle le périurbain, un centre entouré de verdure. Pourquoi vous êtes-vous installé par ici ?
Assez pratico-pratique, hein. C'est parce que quand j'ai voulu monter mon école, le Collège pratique d'ethnobotanique, il fallait que je trouve un lieu où je puisse rassembler une vingtaine de personnes de façon régulière, donc que ce soit bien desservi, qu'on ait un bâtiment, on va dire, à des prix raisonnables, et que ce soit dans un environnement agréable.
Et c'est voilà. Le cas. Ici,
alors moi,
pas
parisien,
loin des monts du Lyonnais.
Oui, mais moi, parisien, c'était pas une évidence. Hein. Lyon, c'était pas la ville à laquelle je pensais. On n'est pas dans Lyon, effectivement, on est dans l'Ouest lyonnais. Et je veux dire que le cadre est superbe, qu'on a vu sur le Mont Blanc.
Alors vous allez recevoir des élèves bientôt. Hein. Vous avez
le prochain week-end, etc. Comme ça tous les mois.
Qu'est-ce que vous voulez transmettre d'essentiel à ces hommes, ces femmes qui viennent ici pour apprendre à mieux connaître les plantes et notamment les plantes nutritionnelles?
Ouais, c'est ça. Moi, une des façons que j'ai de dire les choses, en fait, c'est de donner des éléments aux personnes qui sont sensibles à ma proposition, qui est de développer leur propre relation avec les plantes. Ce terme de relation est évidemment sujet à toutes sortes de discussions.
Vous insistez beaucoup là sur, vous avez cette expression, se relier aux plantes.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire que, personnellement, depuis que je suis petit, je me sens avec les plantes comme je me sens avec d'autres êtres et comme je me sens avec les êtres humains. C'est pas exactement la même chose, bien évidemment, mais il y a une proximité, c'est quelque chose qui pour moi est spontané, donc, hein, naturel et très, très enrichissant et très, très agréable. Ça me fait tellement de bien que c'est ce bien-être et les façons d'accéder à ce bien-être, si je puis dire, que j'ai envie de partager avec d'autres personnes.
Et ça se transmet.
On peut développer
chez les gens, oui, ce lien avec les plantes que vous avez.
Oui. Il faut au départ qu'il y ait évidemment une sensibilité à ça, que quand on parle de plantes, quand ça évoque quelque chose, enfin une envie en tout cas. Bien sûr, et c'est pas tout le monde, et je juge pas, hein, c'est ni bien ni mal, en fait. Après, oui, il y a des moyens techniques, ces moyens techniques, si je puis dire, commencent par l'observation. C'est une question d'observation, et c'est une question d'observation qui ne se fait pas uniquement avec les yeux, qui se fait avec tous ses sens. Et c'est très simple, parce que moi, gamin, je le faisais, et tous les gamins le font. Simplement, ce qu'il y a, c'est que l'éducation et du serré, conduire hors de soi-même, ça nous conduit aussi en dehors de notre spontanéité et, je dirais, de notre relation spontanée au monde.
Alors, François Coupland, j'aimerais qu'on découvre votre parcours, parce que vous dites que depuis tout enfant, vous avez été relié aux plantes. Comment c'est né? Parce que vous nous l'avez dit aussi, vous êtes un Parisien. Vous êtes né à Paris,
vous viviez
dans le 7e arrondissement à Paris. C'est pas là qu'il y a beaucoup de plantes.
Et si, justement, il y a énormément de plantes à Paris, et chaque fois que je suis à Paris, ce qui est relativement rare maintenant, mais chaque fois que je suis à Paris, je prends mon pied avec les plantes. Quoi.
Que vous trouvez où, dans les jardins, dans la rue
au pied, moi, je suis à Cardinal Lemoine, là, rue des Boulangers, il y a de l'élante, il y a du kalinsoga, il y a de la stellaire, il y a des plantes que même parfois je vais ramasser pour faire ma petite omelette du... petit frichetis du midi.
Et qui pousse dans le quoi? Dans les jardins ou au pied des maisons?
Ouais, au pied des maisons. Alors là où je vais ramasser, c'est un petit peu protégé, évidemment, de la pollution
urbaine et des voitures.
Ouais, les pipis chiens, c'est pas encore le drame. Enfin, je veux dire, bon, le pipi, c'est du pipi.
Donc on lave les plantes et c'est bon.
On lave les plantes et c'est bon, on les fait cuire. Enfin, je veux dire, je voudrais pas... Non, je voudrais pas dégoûter nos auditeurs. Bien évidemment, je vais ramasser des plantes là où c'est clean, quoi. Bois de Vincennes, bois de Boulogne, il y a des coins où, franchement, c'est pas plus pollué que les légumes bio du marché Raspail le dimanche matin.
Mais alors, le petit garçon que vous étiez, c'est pas qu'à Paris qu'il a développé son lien avec les plantes.
Non, c'est parce que ma mère était alpiniste. Ma mère, qui était issue d'un milieu très bourgeois, vichysso-parisien, était tombée amoureuse de la montagne, de la haute montagne, quand elle avait 20 ans. Ça se passait dans le massif du Mont-Blanc. En particulier. Et quand elle a eu ses enfants, bah, comme elle pouvait pas nous emmener gravir les sommets, elle nous emmenait dans la montagne à vaches, comme elle appelait ça la montagne à vaches, fleurie, et elle nous faisait découvrir les plantes, et on ramassait des trucs très simples, des framboises, des fraises des bois, des myrtilles, des champignons. Mais pour nous, c'était un truc qui était complètement spontané, naturel, et en plus, valorisé. Donc j'ai pas connu cette haine de la nature qui est extrêmement répandue chez nos contemporains.
Alors on en parlera, François Coupland, de cette haine de la nature et de voir comment on s'est coupé finalement de toute cette cueillette des plantes que l'on a vécu pendant des siècles et des siècles. Ouais. Mais il y a eu quand même des personnes qui ont marqué, je dirais, votre itinéraire personnel et vos découvertes de la botanique et des plantes. Oui. Vous pouvez nous parler de ces hommes ou de ces femmes qui ont été un peu des maîtres pour vous?
Oui. Alors pendant longtemps, j'ai gardé en sourdine ma relation avec les plantes parce que je vivais en ville, parce que il fallait que je m'adapte à mon groupe, parce que je trouvais dans le rock et les différentes formes de défense existantes.
Vous parlez du rock, le rock and roll. Vous étiez vraiment dans la génération 68 ans.
Bah, 68, quoi. J'avais 18 ans en mai 68, et voilà, j'aimais davantage me défoncer et jouer du rock justement que d'aller suivre mes études. Donc, je préparais Polytechnique et je me suis fait renvoyer dans mes foyer parce que je ne correspondais pas exactement à ce qu'on attendait de moi.
Vous rentriez pas dans le moule.
Non, j'en avais pas. Quand j'avais 12 ans, j'avais pris conscience de l'hypocrisie de notre société et ça m'avait profondément marqué.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que on ne faisait pas ce qu'on disait. Je me souviens très bien, c'était à la sortie d'une messe à Angoulême où le prêtre avait prêché la fraternité et le partage avec tous, et où à la sortie, il y avait des mendiants qui faisaient la manche, et où mon père a refusé de leur donner de l'argent, enfin ce qu'ils demandaient, en disant, mais ils vont aller, si tu lui donnes ça, il va aller le boire. Il faut dire que son père était mort alcoolique, son frère est mort alcoolique, donc il y avait quelque chose, À l'époque, j'ai jugé, évidemment. Maintenant, j'ai suffisamment de recul. Mais ça m'a profondément choqué, quoi. Mais comment? Enfin, je veux dire, moi, je croyais à ce qu'on...
À l'amour du prochain. Et
oui, puis... Quand j'allais à la messe, ça signifiait que pour moi, quelque chose qui à mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Même si j'avais bien du mal à ne pas pécher. Bon, je me confessais, donc tout allait bien après. Mais il y avait un décalage entre ce que j'entendais me dire et ce que je voyais pratiquer autour de moi. Et c'était pas que mes parents. Hein.
C'est pour ça que donc, vous êtes un peu coupé de votre milieu, François Coupland, et que vous êtes parti. Mais alors... Quelles ont été les premières rencontres? Alors, je crois que ça a été en Corse ou ça a été dans les Vosges.
Je peux vous donner la chronologie parce que pour moi, elle est toujours très précise. Hein, c'est quelque chose qui fait partie de moi-même. Et ça a été à partir de ce moment. Donc, voyons que dans la société, ça se passait pas comme j'aurais pensé que ça devait se passer. Hein. À un moment, j'ai fait j'ai fait rock, musique et dessous. Et je me suis suffisamment brûlé brûlé les ailes pour faire une dépression. J'ai eu la chance de pas être soigné avec des médicaments, mais avec de la relaxation et un médecin qui m'a dit, écoutez, allez prendre l'air, quoi. Allez dans la nature. Et je me suis pas fait dire deux fois et je suis, mon père dirigeait l'établissement thermal de Bains-les-Bains à l'époque, donc je suis allé me réfugier là-bas et j'ai rencontré une dame qui faisait le ménage chez nous et qui m'a branché avec un vieux monsieur qui était un ancien instituteur, qui avait fait la guerre de 14, qui était membre de la Société botanique de France et était poète. Et donc il était passionné de botanique, passionné par les plantes, et il écrivait des poèmes sur ces plantes. Et donc, comme il avait été blessé, il pouvait pas m'emmener, donc il me donnait des indications, aller là-bas, il me vouvoyait, moi j'avais 16 ans, il me vouvoyait. Il me disait, là, vous allez trouver telle plante et tout. Donc, je cherchais, c'était la chasse au trésor. Et je lui rapportais mes trouvailles. Et quand il avait identifié la plante, il me sortait ses cahiers, il me lisait les poèmes. C'était merveilleux, quoi.
Associer la poésie et la connaissance des plantes et la botanique.
C'est une façon merveilleuse d'apprendre la botanique, quoi.
Visage, RCF.
Alors François Couplan, après vous êtes parti aux États-Unis et il y a eu d'autres étapes bien sûr, mais oui. Je pense qu'on peut pas tout évoquer, sauf s'il y a une autre rencontre qui a été vraiment marquante.
Il y a une autre rencontre parce que c'est celle d'un oncle à moi qui était végétarien, qui était philosophe parce que pendant la guerre il était pétainiste. À la libération il s'est pris 2 balles dans la peau. Il est pas mort quand même, mais il a refait sa vie et il avait une autre vision des choses et il m'a fait la première fois, voir le monde d'une façon différente. Et il était intéressé par les plantes sauvages. Moi, je cherchais le moyen, justement, d'aller vivre ce que j'ai concrétisé par la suite en allant aux États-Unis, effectivement, vivre de façon indépendante de la société. Et donc, bien
vous
concrètement...
Vous nourrir de plantes, déjà.
Bien concrètement.
Vous nourrir de plantes sauvages.
Respirer, j'y arrivais. Boire, trouver de l'eau pure en allant en montagne, j'en trouvais. Par contre, me nourrir, comment me nourrir? Donc comme j'avais ce bagage de plantes comestibles assez restreint, que j'avais depuis petit, que j'avais un peu des notions de botanique, eh bien j'ai branché mon oncle, qui avait 80 ans quand moi j'en avais 20, et on s'est mis à vraiment creuser le sujet. Et puis au bout d'un certain temps, je suis parti aux États-Unis et j'ai vécu pendant 10 ans au fond des bois.
Alors François Couplan, avant de devenir l'ethnobotaniste bien célèbre que vous êtes, auteur de quand même plus d'une
centaine
de livres, 116 livres, vous avez vécu cette expérience assez incroyable de vivre complètement en autarcie, seul, dans la forêt. Vous avez vécu un peu ce qu'on a vu, ce que certains ont vu dans un film qui s'appelle Into the Wild, avec le fameux Christopher McCandless, mais qui lui en est mort, il n'a pas survécu. Oui. Vous avez vécu dans la forêt, comme lui, de manière à nourrir des plantes en autarcie. Je prends cet exemple parce que beaucoup de gens qui ont vu ce film, justement, ce qu'ils en retirent, c'est dangereux de partir vivre dans la forêt.
Oui, justement, c'est intéressant parce que pendant très très longtemps, je ne voulais pas voir ce film, je ne voulais pas en entendre parler, et j'ai lu ce livre très récemment. Et c'est intéressant, effectivement. Je trouve dommage qu'on monte en épingle le fait que quelqu'un en soit mort. Mais on est tellement fasciné par la mort, on est des êtres quand même très pervers, nous autres êtres humains. Donc,
Il est mort parce qu'il a mangé une plante.
A priori, la raison pour laquelle il est mort, c'est même pas qu'il s'est trompé. C'est même pas qu'il s'est trompé, mais c'est qu'il a consommé, il était déjà pas mal dénutri, et il a consommé une plante, Edis aromalpinum, un sainfoin, il en a consommé les graines, et ces graines contiennent des substances, des acides aminés qui empêchent l'assimilation des protéines, et qui ça provoque ce qu'on appelle le lathyrisme, qui est une maladie qui est extrêmement connue avec des GES, Lathyrus sativus, et ça se produit sur des organismes qui sont...
Fragilisé,
exactement, et quand on en consomme de grandes quantités à l'exclusion d'autres nourritures. Donc,
on va laisser Christopher McCandless, c'est un peu technique.
Mais cela dit
que lui a essayé de vivre comme vous avez vécu, c'est-à-dire partir dans la forêt et se nourrir de plantes. Vous l'avez fait.
Oui, bien sûr.
Vous n'êtes pas mort, puisque
j'en suis pas mort, exactement. Et je trouve que ce serait quand même vachement intéressant de faire des films sur des gens qui ont envie de vivre différemment de ce que leur enseigne la société et d'y réussir, quoi.
Il y en a. Vous c'est en avez rencontré aux États-Unis et vous, ça a été, ça a été votre cas.
Oui,
qu'est-ce que vous recherchiez, François Couplan, en partant comme ça dans la forêt?
Ah bah, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On cherche l'absolu, évidemment. On cherche la relation avec ce qui nous dépasse, bien sûr. Bien sûr qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle différemment selon ses croyances. Mais bien sûr.
C'était ça que vous recherchiez, en partant vivre dans la forêt et vous nourrir de
plantes.
Mais
bien sûr, mais bien sûr. Quand j'ai pris du peyote, par exemple, une fois, eh bien, j'ai rencontré Mescalito, l'esprit du peyote, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je voudrais être un avec tout. Il m'a dit, ah, c'est tout. Eh ben, si tu veux, il n'y a pas de problème, et je suis devenu un avec tout. Et c'était tellement insupportable que je lui ai demandé, mais attends, on arrête, je ne peux pas. Et après, j'ai compris que la seule façon de devenir un avec tout, au final, c'était de mourir. Mmh. C'est à ce moment-là qu'on s'unit à ce qui nous dépasse. Mmh. Bien sûr. Mais pendant qu'on est sur Terre, on a quelque chose à faire et donc j'ai, comment je peux dire, ravalé un petit peu mes ambitions et je me suis dit, bah voilà, il faut que je vive et que je vive, comment je peux dire, en responsabilité. Quoi.
Et donc en partageant aussi vos connaissances.
Ah bah voilà.
Ça, ouais. Ce qui est très touchant dans le, je reviens un instant sur Christopher McCandless, là, ce héros d'Into the Wild, il écrit dans son carnet à la fin, paraît-il, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé.
Oui,
lui qui est parti tout seul.
Il avait sorti ça de Tolstoï, je crois, si je ne m'abuse.
Voilà. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Mais en fait, vous avez vécu quelque chose un peu similaire, c'est-à-dire que vous êtes parti seul pour être seul avec le transcendant, et après, maintenant, vous ne cessez de partager ce que vous avez découvert.
Alors, je dois dire quand même qu'aux États-Unis, j'ai pas passé tout mon temps dans la forêt, et que quand j'en sortais, c'était la période post-hippie, et donc il y avait des rassemblements de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, tout nu dans la nature, peace and love, et où on était sur la même longueur d'onde et tout ce qu'on veut, donc où il y avait une proximité vraiment très forte d'individus, de personnes qui vivaient en dehors de la société, aux marges de la société, si on veut dire ça comme ça, mais d'une façon très positive, et où ce partage était quelque chose qui était juste fondamental, c'était à la base de notre... Je peux même pas parler de philosophie, c'était pas une philosophie, mais de notre vie. Et c'est là que moi j'ai commencé à partager mes connaissances avec d'autres, tout en étant totalement inconscient d'ailleurs de l'état de mes connaissances quand je sortais des bois. Par contre, les autres me disaient, ah mais ouais, mais attends, mais c'est chouette ça, mais tu sais plein de trucs. Et donc à partir d'un certain moment, j'en ai pris conscience, et là j'ai eu envie concrètement, enfin de prendre les moyens, de me donner les moyens de partager avec les autres.
Alors François Couplan, partagez vos connaissances des plantes, qui étaient des connaissances empiriques, hein, que vous aviez vraiment apprises sur le terrain, avec l'aide aussi de quelques personnes que vous aviez rencontrées. Mais à quel moment vous avez fait ce pas de vous mettre vraiment à étudier, je dirais d'une manière un peu plus scientifique?
Ah oui.
Est-ce que... Oui. Parce qu'on dit qu'il y a une rencontre avec Copins qui a été déterminante.
C'est la rencontre avec Copins que j'ai toujours beaucoup appréciée.
Alors Yves Copins, pour ceux qui ne le connaissent pas, grand paléontologue, celui qui a découvert Lucie. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a demandé, Yves Copins?
Il m'a dit,
ce jeune homme qui revenait d'Amérique.
Il m'a dit, écoutez, aussi me vous voyez, non ? Ben, j'aimerais bien savoir ce que mangeait Lucie. Donc, ce que vous faites m'intéresse, alors que tout le monde me disait, mais écoute, attends, sois sérieux, quoi. Parce que ça, il m'avait rencontré avant que je parte aux États-Unis. Il m'avait pas rencontré, mais avant que je parte aux États-Unis, j'avais rempli un dossier pour la Fondation de la Vocation où je disais, voilà, quand je serai grand, j'avais une vingtaine d'années, donc, quand je serai grand, je voudrais apprendre aux gens à rencontrer, enfin, voilà, à connaître, à mieux connaître les plantes, à s'en servir, à s'en nourrir, etc. Je voudrais les emmener sur le terrain, je voudrais écrire des livres, ce que j'ai fait par la suite.
Vous aviez déjà cette intuition-là à 20 ans.
Ah oui, mais j'ai commencé à donner mes premiers cours quand j'avais 16 ans, justement, après la rencontre avec mon tonton. Mais moi, j'ai compris une chose, je crois, qui est vachement efficace. C'est si tu ne connais rien à quelque chose, enseigne. Si tu veux apprendre, enseigne. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Moi, si je partage avec les autres, oui, c'est parce que, bien sûr, il y a cette proximité qui est nécessaire, bien sûr. Mais c'est parce que j'ai ce désir, cette soif de comprendre qui, je crois, est très profondément humaine. Et qu'il y a tellement de choses que j'ai envie d'apprendre que, pour aller un petit peu tout explorer, eh bien, j'en acquiers quelques bases et très rapidement, je les partage avec d'autres. Et ça me montre très rapidement où ça va et où ça va pas.
Mais ce qui est passionnant, je trouve, dans votre parcours, François Couplan, c'est que il y a eu ce jeune en rejet de un peu de la société occidentale, en rejet de son milieu, qui est parti, qui a vécu ce mouvement hippie, qui a vécu complètement dans la nature. Et puis en même temps, il y a devant moi aussi celui qui est diplômé docteur en sciences du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, diplôme de l'école pratique des hautes études de Paris. Mmh. Vous avez fait une thèse sur quoi ?
Alors ma thèse, c'était sur l'alimentation végétale potentielle de l'homme avant et après la domestication du feu au paléolithique inférieur et moyen en région méditerranéenne française, 968 pages.
D'accord.
Et vous... j'aime bien, mais là vous me provoquez, là, quand même.
Donc, il y a ce double aspect en vous. Il y a cet
double aspect ?
Enfin, oui, mais peut-être complémentaire. Ou, je dirais, le hippie scientifique.
Ah ! Oh ! Ah oui, mais alors attendez, parlons peut-être de ce que c'est que scientifique, que la science, parce que je pense qu'on l'aperçoit peut-être un petit peu mal, c'est pas quelque chose, comment je peux dire, d'abrupt qui se fait dans un laboratoire, c'est une démarche, c'est une façon de tenter de comprendre le monde de façon expérimentale, en toujours remettant en cause ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, c'est ça la science.
En observant, sans arrêt, ce que vous faites en permanence.
Exactement, en permanence, absolument. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine des plantes que je fais ça, c'est quand je rencontre des gens, quand je discute avec quelqu'un qui vient m'interviewer. Pour moi, c'est une expérience scientifique. Enfin, disons qu'en gros, on émet des hypothèses, on teste ces hypothèses, et une fois qu'on est arrivé à une conclusion, on se dit, oui, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas forcément vrai, donc on va plus loin. C'est la vie pour moi. La science, c'est une façon très vivante de percevoir le monde, c'est pas du tout quelque chose de figé, de dogmatique.
Et vous, c'est pas en laboratoire. Vous, ou votre laboratoire, c'est la nature.
Oui, on peut dire ça. Ouais.
Vous êtes toujours sur le terrain.
Mon laboratoire, ça peut être la cuisine aussi, parce que quand je teste de nouvelles plantes. Et c'est ça qui me plaît, moi, dans ma vie, c'est que ma vie, elle est unie. C'est que quoi que je fasse, ça va avec tout le reste. Voilà. Si je découvre une nouvelle plante et que je la pense comme estime, ben je la teste, je la goûte. Quand je vais à l'autre bout du monde et qu'on me fait goûter quelque chose de nouveau dans mon assiette, eh bien, j'ai ensuite envie qu'on me mène sur le terrain, que je puisse rencontrer justement la plante ou l'animal parfois, parce qu'on mange des fois des trucs assez bizarres et pas seulement dans le domaine du végétal. Donc, j'ai envie de connaître, de comprendre et ça...
Mais ce qui est impressionnant chez vous, François Couplan, c'est aussi votre capacité de travail. On n'écrit pas 116 livres comme ça en claquant des mains. On sent qu'il y a chez vous une méthode, qu'il y a du travail, et puis qu'il y a de la motivation. C'est un peu les trois piliers, j'ai l'impression, chez vous. Vous avez vraiment de la méthode.
Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une chose que j'ai apprise avant de me faire renvoyer du lycée Buffon à 18 ans. Ce que j'ai appris, c'est j'ai appris à apprendre. Et ça, c'est ce que j'admire dans l'approche occidentale du monde, c'est apprendre à apprendre. On est vachement fort pour ça. Je veux dire, ça marche, ça fonctionne.
Ouais, et vous êtes particulièrement fort
pour ça. Ça a ses limites. Mais voilà, moi, je l'ai mis en œuvre et je continue à le mettre en œuvre. Ensuite, le travail, c'est du temps, le travail. C'est du temps. Et le temps, mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai rien d'autre à faire que de travailler. Je veux dire, quand je suis avec ma femme Keiko, on travaille ensemble, on aime ça. On passe des moments de proximité ensemble. Ça nous arrive de regarder des films, effectivement, de faire des choses qui ne sont pas directement liées à notre travail, je dirais. Je ne sais pas si je peux dire notre mission sur Terre, si je veux dire.
Vous riez, mais est-ce que ce n'est pas votre mission sur Terre de faire aimer, redécouvrir les plantes aujourd'hui? On sent qu'il y a une urgence aujourd'hui.
Oui, oui, je suis absolument d'accord.
Est-ce que ce n'est pas quelque part votre mission sur Terre? Parce que vous ne faites que ça depuis 40 ans,
50
ans.
Plus de 50
ans.
Oui.
Plus de 50 ans maintenant.
Oui, plus de 50 ans.
Et sans rien, ce n'est pas votre mission de faire connaître les plantes et de les faire aimer?
Alors, dans le fond, oui. Et j'en ai pris conscience quand je vivais dans les bois. Je me suis dit, mais attends, je veux dire, il y avait des grosses compagnies qui coupaient les forêts. On se trouvait dans des paysages de désolation absolue.
Comme on fait au Canada ou aux États-Unis, hein. On laisse des arbres le long de la route, mais on coupe derrière.
C'était dans l'Ouest américain.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils font.
C'est exactement ça.
Ils laissent quelques arbres devant, comme ça on ne voit pas
pour
trop.
Pour la façade,
et
ouais.
Puis derrière, ils coupent.
Ah oui, voilà. Mais quand on va derrière ou qu'on regarde ça depuis le haut, on s'en rend compte. Et puis ces mêmes compagnies, d'ailleurs, avant de replanter, après avoir replanté des conifères, balançaient du
Roundup.
Pour tuer toute la végétation spontanée, et ça allait dans les cours d'eau, les femmes faisaient des fausses couches, il y avait des empoisonnements et tout. Donc là, je me suis dit, mais attends, il y a urgence. Déjà, il y a 40 ans de ça, c'était il y a plus de 40 ans de ça, il y avait urgence. Voilà. Alors, il y a toujours urgence. Il y a toujours urgence, effectivement. Mais, comment je peux dire, je ne me sens pas investi d'une mission où j'aurais raison par rapport à ce que font d'autres personnes. Non, c'est ce que je dois faire et je le fais. J'ai l'impression que ce que je fais est bien et c'est satisfaisant. Moi, ça s'arrête là.
Visage, l'expression de l'être.
François Couplan, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre l'aspect, je vais dire, un peu socio-historique qui explique l'abandon de la cueillette. Parce que pendant des millénaires, l'homme, la femme ont été on dit chasseurs-cueilleurs. Donc il y avait cette part de cueillette.
Ouais.
Il y a des peuples aujourd'hui, c'est un peu normal pour eux, dès qu'ils marchent, ils se promènent, ils voient des plantes, ils les ramassent, ils les ramènent pour les manger. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore qui font ça. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a perdu, alors disons déjà pour la France, cette habitude de la cueillette et donc cette connaissance des plantes nutritives qui nous entourent?
Alors c'est en particulier en Europe occidentale. Et en Europe occidentale, on a eu le schéma suivant. Le passage à l'agriculture, qui est une façon extrêmement efficace, on cherche l'efficacité, une façon extrêmement efficace de nourrir une population relativement importante sur un petit territoire, parce que c'est très productif. Simplement là, on prend de gros risques, on prend le risque que le système arrive à ses limites, et il arrive toujours à ses limites, c'est-à-dire qu'il y ait trop de personnes par rapport à la surface. Donc là, il y a famine. C'est l'agriculture qui a inventé la famine. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. La guerre, développer la guerre de prédation, c'est-à-dire aller chercher de la nourriture dans d'autres groupes humains et massacrer les gens et récupérer les femmes et les enfants pour les réduire en esclavage et les faire bosser pour soi. Voilà, donc c'est une façon qui fonctionne pendant un certain temps. Et puis sinon, la conquête de nouveaux territoires ou la conquête ou le développement de nouvelles technologies pour permettre une productivité supérieure. Donc ça, c'est l'histoire de l'agriculture, c'est l'histoire de l'être humain, c'est notre histoire depuis il y a à peu près 10 000 ans.
Mais on aurait pu imaginer, on va cultiver le blé ou le riz dans certaines régions et continuer à cueillir les plantes.
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de cueillir les plantes?
Ça se fait, et ça se fait dans pas mal de sociétés agricoles dans le monde. La cueillette de plantes, en particulier de plantes vertes, parce que d'un point de vue nutritionnel, c'est ce qui est le plus important et qui vient bien, compléter la base d'amidon que permet la culture de céréales. Je donne un exemple.
Au Laos, quand vous allez manger au Laos, on vous amène une assiette remplie de différentes feuilles pour compléter votre repas.
Exactement.
Ça se fait au Laos, ça se fait au Cambodge, ça se fait un peu au Vietnam.
Ça se fait en Asie du Sud-Est, dans
chez nous, en Europe.
Chez nous, alors, ce qui a été différent, ça a été deux choses. En particulier, la féodalité. La féodalité, c'est-à-dire le contrôle de la masse de la population par un petit groupe d'individus, et le fait que dans l'Europe féodale, il y a eu une volonté délibérée des élites de se démarquer par l'habitat, par l'habillement, par la langue et par l'alimentation. Et au niveau de l'alimentation, c'était animal plutôt que végétal, gibier plutôt que bœuf et cochon, etc. Gibier ailé blanc, si c'est possible. Le plus valorisé, c'était le cygne, parce que le blanc est la couleur de la pureté, et qu'en plus, comme c'est un oiseau, il vole, donc il est plus près de Dieu.
Et donc, eux, les paysans, les pauvres, eux, ils mangeaient rarement de la viande.
Ils mangeaient rarement de la viande. Et surtout, du point de vue, je reviens à la dichotomie, dans le domaine du végétal, c'était le cultiver par opposition plutôt au sauvage. Alors pourquoi le cultiver ? Eh bien parce que le plan divin était que l'homme transforme la terre à l'image de Dieu. Raison pour laquelle on a coupé les forêts également en Europe, pour christianiser les populations païennes d'une part, pour d'autre part créer des domaines de rendement, évidemment, et en même temps, et pourquoi pas, établir la loi divine sur terre, c'est-à-dire tout domestiquer.
Croisser, multiplier et contrôler, quoi.
Maîtriser
la nature.
Exactement, oui.
Mais alors, revenons aux plantes. Elles ont été dévalorisées, là, les plantes sauvages.
Et donc, les plantes sauvages étaient dévalorisées par rapport aux plantes cultivées. Il faut bien comprendre, c'est un mélange, tout ça. C'est multifactoriel, comme on dit.
C'est intéressant. On voit très bien. On se distingue par l'habitat, le grand château, et puis les pauvres maisons. Mais au niveau de l'alimentation, on va manger plutôt de la viande et des légumes cultivés.
Voilà.
Parce qu'on marque sa différence. Et par contre, les pauvres vont manger quoi ? Les plantes sauvages ?
Les plantes. Alors, je reviens à notre végétal. C'est pas seulement cultivé, mais c'est aussi des plantes qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est important parce que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la barrière. C'est mieux quand ça vient d'ailleurs. Et puis, c'est très pratico-pratique en même temps. Si je mange des haricots verts, ça montre bien à tout le monde que j'ai les moyens de me payer un jardinier qui va cultiver pour moi, parce que les haricots verts, ça pousse pas tout seul, c'est compliqué, il faut s'en occuper, etc. Tandis que si je suis un paysan, je travaille pour le Seigneur, j'ai pas le temps, moi, de produire, de cultiver. Je ne peux cultiver dans mon jardin que des plantes banales, communes et faciles à venir, comme des panais, par exemple.
Et vous pensez que c'est vraiment à cause de ça que les gens ont perdu la connaissance de ces plantes nutritionnelles? Parce que vous dites qu'en Europe, on aurait 1600 plantes nutritives et que finalement, on en mange, on en connaît à peine une trentaine. Mais comment on a pu oublier la connaissance de toutes ces plantes?
Simplement parce que l'être humain, je crois, est assez facile à comprendre, et l'être humain est un être de symbole. Il s'intéresse aux symboles. Et quand on mange quelque chose, dans son assiette, on n'a pas des aliments, on a des symboles. Et le symbole de la richesse, c'était le haricot vert, le symbole de la pauvreté, c'était l'ortie. Donc, dès qu'on en a les moyens, et en particulier quand on quitte la ville pour devenir ouvrier, et qu'on va s'habiller comme un bourgeois qui lui-même s'ingère noble, et qu'on va donc pouvoir se comporter différemment dans son assiette, on va mettre plutôt du beefsteak et des haricots verts, ou des frites, plutôt que de l'ortie et de l'égopode, qui sont des plantes de paysans, et on a envie de changer de statut social.
Moi, ce qui m'a frappé, grâce à vous, j'ai pris conscience du mot « glandeur ».
Oui, « glandeur », oui.
Un glandeur, on dit un glandeur, c'est quelqu'un qui fait rien. Voilà. Un glandeur, c'était un ramasseur de glands et qui savait ramasser.
Voilà, mais on revient encore à cette notion chrétienne de tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. le pain céréal valorisé, le gland plante sauvage et
que tu peux cueillir facilement, voilà, finalement.
Exactement, ouais. Exactement. Qui est pas forcément le plus digeste non plus, parce que les glands dans nos régions contiennent beaucoup de tanins, donc il faut éliminer le tanin. Et finalement, faire manger les glands par les cochons et manger les cochons après, ça peut avoir une certaine efficacité. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoires. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique. Un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces.
Alors François Couplon, quel est votre regard sur la nature? Vous qui êtes un homme qui nous aidait à connaître les plantes, à aimer les plantes, j'aimerais que vous nous parliez de ce lien qu'on a à la nature. Mmh. Parce qu'on a l'impression que c'est très complexe pour nous, citadins, aujourd'hui. On a un regard parfois idéalisé sur la nature. La nature sauvage, vous la connaissez aussi, hein. Vous avez été dans beaucoup de pays dans le monde, étudier les plantes dans la jungle, en Asie, en Afrique. Donc j'aimerais que vous nous parliez de ce rapport que vous avez à la nature et nous aider à comprendre qu'on sorte à la fois d'un idéalisme candide et un peu simplet, une peur de la nature, parce qu'il y a aussi ça, elle nous effraie.
Absolument. En fait, c'est très simple et c'est immensément compliqué. Les deux à la fois. Je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est essentiel d'être capable de percevoir la chose et son contraire en même temps et leur validité. Pour moi, la nature, c'est avant tout une émotion. La nature, c'est une émotion que je ressens depuis que je suis petit. C'est un bien-être, c'est un état dans lequel je me sens, allez, on peut employer des clichés et des trucs éculés, en communion avec ce qui m'entoure.
Mais c'est vrai, vous le ressentez, ça.
Je le ressens.
Dans la nature, vous le ressentez.
Je le ressens,
vraiment.
Je le ressens, bien sûr. Enfin, voilà, c'est un terme qui est quand même un peu tendancieux. Mais je le ressens. Voilà, je l'ai toujours ressenti et je le ressens toujours.
Et donc, ça vous donne quoi? De la paix, du bien-être,
oui,
vous ressentez.
Oui, oui. Bah, vous dites quelque chose que quand on fait une méditation ou que quand on prie dans une église, quand on est en contact avec ce qui nous dépasse, avec Dieu, c'est une façon de le dire. C'est une façon de le dire. Ouais. Voilà. C'est ma façon de le dire, en tout cas pour ça. Ce qui veut pas dire que ce soit nécessairement une expérience transcendantale
qu'il faudrait... Vous êtes pas en extase en permanence, quoi.
Ouais, voilà.
Surtout que vous observez en même temps. Vous êtes tout le temps l'observer, la nature.
Et c'est dynamique. Moi, je vis... Pour moi, la vie est dynamique. Donc, un état suit l'autre. Ensuite, la nature, pour moi, donc, c'est devenu quelque chose de très concret, c'est-à-dire là où je ne sens pas la présence de l'homme. Parce qu'il faut donner des définitions de la nature. Littré, à la fin du 19e siècle, Littré, il donnait 29 définitions différentes de la nature. Donc, ça veut dire que quand on parle de nature, il faut commencer par bien définir ce dont on parle. Et je me rends compte que la plupart du temps, il s'agit de dialogue de sourds, en fait, parce que les gens n'ont pas la même définition, et donc utilisent le même mot, mais avec recouvrant des réalités différentes. Donc voilà.
Attendez, donc, des lieux où il n'y a pas la présence de l'homme en France?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La nature sans présence de l'homme en France, moi j'en connais pas. Je connais pas de forêt primaire en France, il n'y en a aucune.
Non, il n'y en a pas. Ni en Europe, d'ailleurs. Toutes les forêts ont été exploitées. Même la fameuse forêt Białowieża a été exploitée au 12e siècle.
Donc terminé. Les vrais lieux de nature sans présence humaine, il faut aller en Amazonie.
Non, mais même l'Amazonie. Même l'Amazonie est comment dire, exploitée.
Il y a encore quelques lieux, quand même, en Amazonie, non?
Non. Oui, enfin, oui, peut-être.
En République démocratique du Congo, encore.
Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais l'homme est partout. L'homme est partout, de toute façon. Donc, c'est un concept. Et la notion de nature est un concept. Et justement, c'est intéressant de parler de l'Amazonie, par exemple, parce que les gens qui vivent là-bas n'ont pas de concept de nature. C'est occidental, le concept de nature. Descola explique ça très bien. Je trouve, la notion de nature est une notion culturelle. Voilà. Donc, ça devient un petit peu difficile. Et puis, on peut pousser le bouchon encore un petit peu plus loin. Dire, mais finalement, l'homme est être de nature aussi. Donc, tout ce que fait l'homme est naturel. On parle de l'anthropocène maintenant. C'est une nouvelle, comment je peux dire, façon de...
D'appréhender la nature.
De vivre la nature, oui, effectivement.
Mais alors, attendez, revenons sur vos expériences. Vous avez été... étudier les plantes, chercher des plantes et chercher à mieux connaître certaines plantes dans le monde entier. Enfin, vous n'avez pas été dans tous les pays, mais vous avez été sur les 5 continents. Oui. Il y a eu des moments où vous étiez dans la nature, c'est-à-dire dans la forêt, où vous vous êtes senti soit très bien, soit très mal, soit très angoissé.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Les deux sentiments, vous avez ressenti les deux?
Complètement, complètement. Quand je vais dans des forêts tropicales, c'est souvent le cas. Je me souviens une fois d'une balade c'était au Cameroun, dans la forêt équatoriale africaine. Ah, toute la journée, on marchait dans des marécages avec de l'eau jusqu'à la taille. Et le soir, pour se coucher, le seul endroit qui n'était pas couvert de végétation, c'était la piste d'éléphant avec les grosses traces d'éléphants et les grosses crottes d'éléphants. Et c'est là qu'on a dormi.
En espérant qu'ils ne passent pas la nuit où vous êtes en train de dormir.
Bon, le plus embêtant, c'était pas les éléphants, c'était les moustiques. Mais voilà.
Donc cette nature, elle est pas confortable, on va dire.
Cette
elle
nature,
est même dangereuse.
Cette nature est pas confortable, potentiellement dangereuse. Mmh. Ou quand on marche sur les fourmis qui vous montent dans le pantalon et puis qui comme si on était brûlé au fer rouge. Et puis voilà. Mais même ici, je veux dire, des moustiques, il y en a.
Pour voilà, ça, je vous pose ça. Alors ça, c'est des cas un peu extrêmes. Mais vous croyez pas qu'il y a une forme un peu d'idéalisation de la nature par des citadins qui finalement ne la connaissent pas?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'emmène les gens dans la nature. Ici, dans la nature au Provençal, qui est quand même une nature un peu plus forte, donc je peux quand même employer le mot nature à partir du moment où je l'ai défini. Mais ce que j'aime bien, c'est l'approche de François Terrasson, qui malheureusement est mort il y a quelques années, mais qui définissait des pourcentages de nature. Et ça, c'est très juste. Quand on arrive à définir ces pourcentages de nature et qu'on arrive à percevoir là où on se sent bien, eh bien, on se connaît mieux, tout simplement. Je ne sais pas, là, par exemple, ici, on regarde par
donc
la fenêtre. Donc
ici, à Brinda, dans la région.
Je vois les monts du Lyonnais au fond. Devant, je vois un magnolia chez moi. Là, je vois des... Donc, il vient d'Asie, un if, différents arbres. Bon, oh, et puis beaucoup de maisons. Et puis, on n'entend pas le bruit des travaux, ça va. Mmh. Mais on est, je pense, à 20% de nature, à peu près. On est à 20% de nature. Quand on va se balader dans les monts du Lyonnais, on va se trouver dans des forêts, dans des plantations de Douglas. Là, on est peut-être à 40% de nature quand même, parce que quand on regarde par terre, on va trouver des plantes natives, parce que tous ces Douglas, ils ont été, c'est de l'homme.
C'est l'homme qui les a plantés.
C'est l'homme, voilà. Ouais. Quand on est à Paris, par exemple, dont je parlais, au bois de Vincennes, c'est un petit peu pareil, mais c'est quand même un peu plus sauvage, peut-être.
Quand vous êtes dans les Hautes-Alpes,
Alpes de Haute-Provence,
vous êtes
0,4, hein, confondez pas.
Alpes de Haute-Provence.
C'est plus Provence, ouais. C'est là, plus sec. Hein. C'est froid en hiver, c'est sec en été.
Là, la nature.
Alors, la nature a été, comment je peux dire, domestiquée très violemment pendant 3000 ans à peu près, mais il y a une centaine d'années, tout le monde est parti. Voilà. Donc, Tout le monde, sauf les bergers, il y a des endroits où il y a des moutons. Alors quand il y a des moutons, alors là, ça, on redescend à Brindas, hein, pratiquement. Mmh. Hein, on est à 20-30% nature. Ouais, c'est terrible les moutons. Par contre, dans d'autres endroits, comme autour de chez moi, par exemple, où je fais rien depuis 40 ans et où les plantes poussent, on est bien à 60-70% de nature quand même, bien. Et certains endroits, on est davantage que ça. Donc c'est une question de perception, quoi. Vous disiez justement, il n'y a pas de forêt primaire en France ni en Europe, mais il y a des endroits où on peut se sentir à 80-90% de nature. C'est vraiment une question de sensation.
Visage, Thierry Lyonnais.
François Couplan, parlons maintenant de ces plantes que l'on peut manger, ces plantes comestibles. Vous les faites connaître, vous donnez des formations pour aider à des personnes qu'elles apprennent à les cueillir et à s'en nourrir. Il faut impérativement faire un stage, il faut se former, parce que c'est dangereux d'aller cueillir des plantes.
Quelle excellente question.
Qu'on ne vous pose
jamais.
Mais oui,
mon cher Thierry, bien sûr, il faut absolument suivre un stage avec moi, sinon vous risquez de mourir comme le pauvre Christopher McCandless. Oui, bien sûr. Comprenez, la seule façon pour moi de dire honnêtement les choses, c'est d'utiliser la pensée paradoxale. C'est-à-dire que ce que je vais dire est vrai, mais son contraire est vrai aussi. Donc oui, effectivement, c'est quand même nettement mieux et oui, il y a des risques. Oui. Mais non, d'un autre côté, vous pouvez très bien apprendre par vous-même. J'ai pas personnellement tout appris par moi-même, c'est vrai, mais l'essentiel, en fait, je l'ai appris par moi-même. Oui. Donc, il n'y a absolument pas besoin.
Oui, mais attendez, c'est pas inné de voir une plante et de se dire, tiens, cette plante-là, je vais pouvoir la manger.
Non, c'est pas inné.
C'est pas inné.
Non, c'est absolument
donc,
pas inné.
Il faut bien que quelqu'un vous initie ou, je sais pas, les livres, là, j'ai une pile de livres devant moi, mini-guide des plantes sauvages comestibles, par exemple.
Oui.
À partir de ça, ça suffit, on peut prendre ce petit livre, aller dans la nature, là-bas, je l'ouvre au hasard, aïe des ours. Donc ça, c'est facile à reconnaître, ça, c'est encore une plante qui est pas trop difficile.
Ah bah non, là, il y a des morts.
Mais là, il y a des dangers, là.
Régulièrement, il y a des morts, et régulièrement, il y a des gens qui confondent les feuilles d'aïe des ours avec des feuilles de colchique.
Alors, vous voyez, là.
Et qui en meurent.
C'est très bien que je l'ouvre comme ça au hasard.
Tout à fait.
C'est pas anodin d'aller dans la nature pour cueillir des plantes et pour se nourrir.
Non.
Donc.
Non, c'est pas anodin.
Comment faire ?
C'est pas anodin. Alors bon, on va pas disserter sur la question. Moi, personnellement, ce que je conseille, c'est de commencer par aller dans la nature avec quelqu'un qui connaît, que ce soit des stages ou quoi que ce soit, au-delà du fait d'avoir lu des livres. Parce que les livres, c'est bien, mais ça doit être mis en pratique sur le terrain. Donc, c'est bien de pouvoir rencontrer réellement, justement, ces plantes dont on parle, du moins certaines de ces plantes, de commencer à percevoir, à apprendre. D'abord, la première chose, je voulais le dire déjà tout à l'heure, la première chose essentielle, c'est de prendre le temps. Si vous voulez pas prendre le temps d'apprendre les plantes, c'est pas la peine. Si, bien sûr, ça vaudra toujours la peine. Mais enfin, ça sera compliqué et ça sera pas forcément très fiable. Donc il faut du temps. C'est une aventure qui prend du temps. Et si vous y lancez, ça va vous prendre tout le reste de votre vie parce que c'est tellement passionnant, je pense, et c'est tellement vaste d'autre part qu'il vous faudra du temps.
Pour bah, ça, vous vos formations sérieuses, on va dire, c'est trois ans.
Formation
à raison de combien de...
Un week-end par mois plus deux semaines sur l'année.
Ouais. Oui. Donc ça prend du temps quand même.
Ça prend du temps. Mais au bout de 3 ans, on est capable d'emmener les gens, d'autres personnes sur le terrain. On connaît plusieurs centaines de plantes. On connaît toutes les plantes toxiques. Donc, on est capable d'éviter les problèmes majeurs. Et surtout, on a compris, parce qu'on ne fait pas que les plantes, on étudie aussi l'ethnobotanique, c'est-à-dire le rapport entre l'homme et les plantes, le rapport entre l'homme et le monde. Donc, ça veut dire que soi-même, au bout d'un certain temps, on a sa façon de vivre le monde qui change. Et à mon avis, avec un peu plus de sérénité, ce qui, par les temps qui courent, ne fait pas de mal. Voilà.
Mais alors, très concrètement, on peut se nourrir des plantes. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous écoutent, qui vont dire, ah bah tiens, par exemple, je vais me former, et puis après, je pourrais vivre en, surtout ceux qui veulent être végétariens, en allant cueillir uniquement les plantes. Est-ce qu'on peut vivre, pas simplement survivre, mais en se nourrissant de plantes que l'on va cueillir?
On pourrait. Il y a suffisamment de plantes dans la nature autour de nous pour pouvoir y trouver tous les éléments nutritionnels dont on a besoin, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'éléments nutritionnels, c'est nourrir. Alors, il se trouve que les aliments nutritionnels de base, comme les amidons, par exemple, ou les lipides, qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants que les amidons, c'est pas le meilleur truc pour nous. On n'est pas fait pour manger des amidons à haute dose, comme on le fait depuis 10 000 ans.
C'est ce qu'on fait avec le pain.
Ah, ben oui. Bah, depuis 10 000 ans, c'est ce qu'on a fait. On a mis l'accent sur l'amidon. Et à mon avis, ça pose toutes sortes de problèmes de santé dont on se rend compte. Voilà. Mais enfin, glucides et lipides, c'est pas ce qu'on trouve en plus grande abondance dans la nature. Mais si on le veut, on peut. On peut, bien évidemment.
C'est pas simplement un mode survie. Parce qu'aujourd'hui, oui. Il y a les survivalistes qui se disent « Waouh, on peut aller dans la nature et on apprend à reconnaître les plantes pour pouvoir survivre. »
Non, pas forcément. Mais si on le souhaite, on le fait. On peut le faire, d'accord. Moi, personnellement, c'est pas vraiment... je l'ai fait. Je sais que je peux le faire. Je sais que si un beau jour, il n'y a plus de, d'approvisionnement, je pourrais toujours me débrouiller. Mais j'aime bien, moi, compléter, le civilisé, le cultiver par le sauvage. Cultiver, moi, j'ai pas de jardin pour deux raisons. La première, c'est que je bouge beaucoup et que pour jardiner, il faut être sédentaire et que moi, la sédentarité, ça me casse les pieds. Ça m'intéresse
donc vous n'avez
pas
de jardin. Mais non, vous avez jardin. Votre jardin, c'est la nature.
Mon jardin, c'est la nature. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui cultivent très bien. Là, ici à Brinda, il y a un petit magasin de producteurs bio qui est absolument génial où il y a des produits super top. On a trois biocopes côte à côte, on a machin, truc chouette et tout de tous les côtés. On n'a pas de difficulté à trouver des bons produits de base. Donc je vais chercher des bons produits de base qui me satisfont. Et par contre, je complète mon alimentation, mais pratiquement quotidiennement, tous les jours, je mange des plantes sauvages que je vais ramasser là en bas dans mon jardin, où j'ai ramassé, on vient de Suisse, là, on a ramassé plein de trucs, Kiko a voulu faire un pesto de plantain pour son émission, on mange du pesto de plantain, et puis ça va bien, quoi.
Alors, François Couplan, à deux reprises, vous avez prononcé le nom de votre épouse, Keiko
oui.
Imamura.
Ah oui, Keiko, oui.
Keiko. Elle est cuisinière et japonaise.
Alors, cuisine traditionnelle japonaise, c'est-à-dire, parce que la cuisine japonaise est extrêmement variée et c'est très compartimenté. Donc, il y en a qui font des sushis, il y en a qui font du yoshoku, de la cuisine occidentale, japonisée, machin comme ça. Et elle, c'est plutôt la cuisine familiale, ce qu'on mange dans les familles
au Japon. Elle enseigne ça, mais elle participe aussi à vos formations et elle cuisine aussi les plantes que vous ramenez.
Ah,
vous avez un lien très étroit entre cuisine et cueillette des plantes.
Ah non, mais au Japon, c'est normal. Et c'est pour ça qu'Eiko donc, avait un café-restaurant à Nagoya qu'elle a mis en veilleuse pendant une année. Elle voulait prendre une année sabbatique. Et en particulier, comme elle est très francophile et francophone par la même occasion, elle voulait venir en France pour voir ce que les Français consomment comme plantes sauvages. Elle a cherché des chefs cuisiniers qui cuisinaient les plantes sauvages. Elle n'a pas trouvé grand-chose.
Ceux que vous avez conseillé vous-même, puisque vous avez conseillé pas mal de
grands
chefs étoilés.
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup.
Il y a Marc Vera, il y a Bra.
D'accord. Mais eux, c'est des étoiles, justement, et des étoiles filantes, quand même.
Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chefs cuisiniers, finalement, qui utilisent les plantes sauvages.
Correctement, non. Je veux dire, je vais pas critiquer ceux qui vont à Rungis pour acheter un petit bouquet de stellaire et qui ensuite mettent un brin de stellaire sur chaque assiette et disent moi je travaille les plantes sauvages, j'exagère, ils m'en voudront, et s'ils m'entendent, ils m'en voudront. Tant pis, c'est comme ça. Moi je trouve que c'est pas sérieux. Il faut vraiment y passer du temps. Et quelqu'un comme Marc Vera ou Michel Brass, c'est des gens qui connaissaient, ils étaient dedans depuis qu'ils étaient petits. Et puis j'ai travaillé surtout avec Marc et c'était sérieux son travail. Il a mis des années, quoi. Ils ne sont pas
nombreux à faire ça.
Non,
disons.
Voilà, bref, ouais, non. Allez, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je travaille avec quelques cuisiniers, dont un jeune à Salon de Provence. Il fait bien les choses. Mais ça ne court pas les rues, quoi. Vraiment, ça ne court
pas
les rues.
C'est pas rentré encore dans les mœurs, vraiment, des cuisiniers de développer l'utilisation de
plantes sauvages. C'est compliqué. On est toujours dans le symbole de statut, hein. On est toujours dans le symbole de statut. Et c'est intéressant parce que quand j'ai fait ce travail avec Marc Vera, ces plantes qui étaient délaissées, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, qui étaient des plantes de pauvres, qui étaient des plantes de paysans, des plantes qu'on voulait même pas avoir, qui étaient de la mauvaise herbe, purement et simplement, qu'on cherchait uniquement, préférentiellement à éliminer. Donc avec le travail qu'on a fait, ça les a remis sur le devant de la scène, aller payer pour manger des mauvaises herbes chez un triple étoilé, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà. Mais ensuite, bon, ça a été repris par René Redzepi, qui, avec tout son charisme, a bien fait la pub pour les plantes sauvages, et lui les utilise tout à fait bien. Mais après ça, c'est devenu un concept. Moi, je suis dans la course aux étoiles, moi, je veux faire comme Vera et Redzepi, mais sans prendre le temps, parce que le problème de ces cuisiniers, et ça, je leur crie dans les oreilles, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment de temps pour faire les choses sérieusement. Ils
c'est-à-dire
sont toujours bousculés, quoi.
Et prendre le temps d'apprendre vraiment.
Et de passer du temps avec les plantes, je veux dire, dans la nature, là où elles poussent. C'est pas en se faisant livrer par des gens qui vont... Ou alors ça devient, comment je peux dire, ça devient un ingrédient, une nouvelle couleur sur la palette, ok, c'est très bien. Mais
donc
entre acheter sa couleur et la fabriquer...
C'est important d'aller cueillir les plantes, marcher les chercher, les cueillir.
Oui, parce que ce n'est pas, c'est pour ça que je ne proposerai jamais, moi, de faire de la culture de plantes sauvages, ou de les fournir sur les marchés, mais que j'insiste pour que les gens aillent les ramasser eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est une autre façon de se relier au monde qu'on découvre, et c'est ça qui est important. Se nourrir, c'est pas juste se faire flasher les papilles, hein, c'est pas juste s'apporter des nutriments, parce que les plantes sauvages, en particulier les feuilles de plantes sauvages, sont d'une richesse en nutriments qui nous manque. On est tous en carence. Regardez ce que dit l'OMS.
On va acheter des pastilles compléments alimentaires.
Voilà, les compléments alimentaires. Oui. Ce sont des compléments alimentaires, si on veut, mais des compléments alimentaires qui sont plus que des compléments alimentaires. Et ça, on le découvre. Vous savez, les choses les plus importantes, on ne peut pas vraiment les dire. Donc les choses les plus importantes, là, je ne les dis pas. Tout ce que je peux vous dire à vous qui écoutez, hein, c'est aller dans la nature, et la nature, elle est chez vous, la nature, elle est en bas de votre balcon, elle est sur votre balcon, elle est en bas de votre porte, même si vous habitez en ville, elle est partout, elle est dans votre jardin,
donc,
elle est dans les bois.
Reliez-vous et émerveillez-vous. Vous insistez beaucoup sur l'émerveillement.
C'est la base.
Votre livre, votre dernier livre s'intitule L'émerveillement.
Émerveillez-vous. J'ai voulu mettre dans ce livre un condensé de ce que je sais pas comment dire, du bonheur, du plaisir, de la sensation profonde que différentes plantes, je crois qu'il y en a 600 dans ce bouquin, quelque chose comme ça, c'est rien par rapport à tout ce qui existe évidemment, m'ont procuré comme sensation d'émerveillement. Et ces sensations d'émerveillement, c'est quelque chose qui dépasse le physique, mais ça passe par les outils dont
sens,
la nature nous a doté, les sens.
Vous insistez beaucoup. D'ailleurs, bon, le sous-titre, c'est un voyage sensoriel au cœur du monde végétal. Et voilà. Il faut apprendre à se relier à la nature en développant tous nos sens.
C'est hyper simple. C'est hyper simple. Mais ça demande de s'arrêter, parce que les plantes, elles bougent pas et nous, on bouge. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter. On s'arrête devant une petite plante, une grande plante, comme on veut. Et puis, on fait preuve simplement de curiosité.
Et pas simplement la regarder, donc utiliser le sens de la vue, mais il faut la toucher, la
l'observer.
Sentir.
Mais déjà l'observer avec la vue, déjà l'observer avec
C'est une première étape.
C'est une première étape. Et on va découvrir des formes, on va découvrir des textures, on va découvrir des odeurs dont on n'a jamais eu conscience. Et ça, c'est juste fabuleux, surtout quand on se rend compte que c'est là, et qu'on l'avait jamais vu. C'est un beau voyage, c'est vraiment un beau voyage.
Pour terminer, François Couplan, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui? Parce que là, vous avez passé les 70 ans, vous êtes plein d'enthousiasme, d'énergie, vous formez des dizaines et des dizaines de personnes chaque année. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux?
Ben là, en ce moment, c'est d'être avec vous et puis de partager avec d'autres personnes qui vont nous écouter après, c'est ça. Et après, ça va être de me remettre à répondre à mes mails, et après, ça va être de manger ce qu'on va manger à midi. Et après, je veux dire, ce qui me rend le plus heureux,
c'est
d'être
présent,
où je suis.
Ouais. C'est ça.
Oui, exactement. Oui, c'est pas très compliqué, en fait. Je suis pas très difficile.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous, ici, à Brinda. Je renvoie... je vais pas vos 116 livres, hein, mais au moins le dernier, Émerveillez-vous, un voyage sensoriel que vous avez publié au Les Liens qui libèrent.
Ouais, c'est bien Les Liens qui libèrent, c'est une bonne maison d'édition.
Et puis il y avait le précédent, ah ouais, là, Ce que les plantes ont à nous dire, qui empoche aussi.
Ah, j'en conseille la lecture, ouais, parce que je pense que ça peut être une bonne source de réflexion. Ce que les plantes ont à nous dire, c'est des bonnes réflexions, je crois. Émerveillez-vous, c'est du concret, c'est allez-y, mettez les mains dans le plat, quoi.
Et surtout, allez vous relier aux plantes dans la nature qui vous entoure. Merci François Couplan.
Merci Thierry.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.